Guy a commencé à vous le dire. Le texte qui va nous retenir ce matin nous parle de l'apôtre Paul. Alors, dimanche dernier, Jérémy nous avait dressé le portrait de l'apôtre Pierre en mettant en évidence la métamorphose qui s'était opérée en lui à l'occasion de la Pentecôte. Et ce matin, je vous invite à reprendre notre parcours du livre des Actes que nous avions commencé avant tous ces événements liés au Covid. Et nous allons reprendre un texte au chapitre 9 qui nous relate une autre transformation radicale, celle de Saul de Tarse, qui deviendra l'apôtre Paul. Avant de lire le texte qui retiendra notre attention aujourd'hui, je voudrais commencer par situer le contexte et notamment nous rappeler qui était Saul de Tarse. Comme son nom l'indique, il est né à Tarse, en Turquie. On pense qu'il est né vers l'an 8. Tarse est une ville active, capitale de la province romaine de Cilicie, et entre autres, on y tissait des poils de chèvre pour confectionner des toiles de tente, et vous savez que Paul, pour subvenir à ses besoins, a longtemps été fabricant de tentes. C'était un centre culturel important où se mêlaient les cultures grecques et romaines, et le stoïcisme y était répandu. Paul est aussi issu d'une famille influente de la tribu de Benjamin, et pour un juif, ça veut dire quelque chose, parce que cette tribu, était tenue en haute estime parce qu'elle était restée fidèle au roi David. Quelques membres de cette famille de Paul sont à Rome, ça nous est précisé dans l'Épître aux Romains, d'autres sont à Jérusalem, puisqu'on voit un neveu de Paul s'adresser au consul romain pour dénoncer un complot qui vise Paul. Saul a aussi hérité de son père ou de son grand-père, on ne sait pas trop, la citoyenneté romaine, et vous savez toute l'importance que ça aura dans son ministère. Bien que Tarse possède des écoles réputées, Saul sera élevé à Jérusalem, où il suivra l'enseignement de Gamaliel, qui est un membre influent du Grand Conseil du Sanhédrin. Saul a donc une parfaite connaissance de la loi de Moïse, il appartient au parti des pharisiens, qui croyaient à l'immortalité de l'âme, et quand on pense à tous les enseignements que Paul va donner, on peut déjà réfléchir aux conséquences de son arrière-plan aussi. Paul croyait à la résurrection corporelle, aux récompenses, aux sanctions dans l'au-delà. Il pensait que Dieu accorde sa grâce à ceux qui se conforment à sa loi. La piété des pharisiens est devenue avec le temps formaliste, allant même jusqu'à imposer des règles issues de la tradition qui ne figuraient pas dans la loi de Moïse. Une remarque au passage, Gamaliel, c'est ce pharisien qui avait conseillé au Sanhédrin de ne pas mettre à mort les apôtres, qui avaient bravé l'interdiction qui leur avait été faite de parler de Jésus, et il leur avait dit « ne prenez pas le risque de combattre contre Dieu lui-même, si ces gens sont des usurpateurs, eh bien leur mouvement s'essoufflera de lui-même ». Au moment qui nous intéresse, Saul est probablement membre du Sanhédrin, car les textes nous disent qu'il a voté l'exécution d'Étienne et qu'il a été témoin de sa lapidation. Même si son rôle s'est limité à garder les vêtements de ceux qui lapidaient Étienne, Saul a approuvé cette exécution. Et quand on fait le tour de toutes ces caractéristiques de Saul, eh bien on se dit qu'il a probablement un grand avenir au sein du Sanhédrin et il n'a pourtant que 25 ans. Et avec un zèle qu'il qualifiera lui-même plus tard d'excessif, il demande l'autorisation au grand prêtre de se rendre à Damas pour pourchasser des chrétiens qui s'y sont réfugiés, les ramener à Jérusalem et les persécuter. Il se met donc en route pour Damas, ce qui représente un voyage d'environ 250 km, et il est presque arrivé à destination lorsque commence notre texte. Acte 9, versets 1 à 20, et je vous le lis dans la version Bible du Semeur. Saul, qui ne pensait qu'à menacer et à tuer les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. Ces lettres l'autorisaient, s'il trouvait là-bas des hommes ou des femmes qui suivaient la voie du Seigneur, à les arrêter et à les amener à Jérusalem. Il se dirigeait donc vers Damas et approchait déjà de cette ville quand, soudain, il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu »« Qui es-tu, Seigneur » demanda-t-il. La voix reprit « Je suis, moi, Jésus, que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et là on te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de voyage restèrent figés sur place, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre, mais il avait beau ouvrir les yeux, il ne voyait plus. Il fallut le prendre par la main pour le conduire à Damas. Il resta aveugle pendant 3 jours et ne mangea ni ne but. Or à Damas vivait un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit « Ananias ?»« Oui, Seigneur, » répondit-il. Et le Seigneur lui dit « Lève-toi et va dans la rue que l'on appelle la rue droite, et dans la maison de Judas, demande à voir un nommé Saul, originaire de Tars. Car il prie, et dans une vision, il a vu un homme du nom d'Ananias entrer dans la maison et lui imposer les mains pour lui rendre la vue. « Mais Seigneur, » répliqua Ananias, « j'ai beaucoup entendu parler de cet homme. De plusieurs côtés, on m'a dit tout le mal qu'il a fait à ceux qui t'appartiennent en Jérusalem. De plus, il est venu ici muni de pouvoir que lui ont accordé les chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui te prient. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car j'ai choisi cet homme pour me servir. Il fera connaître qui je suis aux nations étrangères et à leur roi, ainsi qu'aux Israélites. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. » Ananias partit donc, et, arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et lui dit « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que la vue te soit rendue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, ce fut comme si des écailles tombaient des yeux de Saul et il vit de nouveau. Alors il se leva et fut baptisé. Puis il mangea et reprit des forces. Saul passa quelques jours parmi les disciples de Damas, et dans les synagogues, il se mit tout de suite à proclamer que Jésus est le Fils de Dieu. Jusqu'ici, la parole de la lecture de Dieu. La lecture, pardon, de la parole de Dieu. Les premières choses qui me frappent dans ce récit, ce sont la soudaineté et la puissance de l'intervention de Jésus. Essayons d'imaginer la scène. Un groupe d'hommes se déplace, probablement à cheval, vu la distance à parcourir. Ils sont en route probablement depuis plusieurs heures, puisqu'il est aux environs de midi, on peut penser qu'ils n'ont pas attendu les heures les plus chaudes pour se mettre en route. Le temps s'écoule doucement, la fatigue se fait sentir. Ils sont sur le point d'arriver à destination et pensent peut-être à ce qu'ils feront une fois arrivés, au repos qu'ils pourront prendre. Et soudainement, une lumière aveuglante les arrête. Et Saul, comme ses compagnons, est terrassé. Il tombe à terre et entend une voix qui l'appelle par son nom et l'accuse de le persécuter. Je ne sais pas si on essaye de se mettre quelques instants à la place de Saul. Voilà, il marche, il est en voyage depuis des heures et brutalement, il est arrêté, il se retrouve à terre. Et il y a de quoi être surpris et inquiet. Il doit se demander, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Et la première réaction de Saul, c'est d'essayer de savoir qui lui parle. Mais qui es-tu, Seigneur ? Et vous remarquerez que Paul l'appelle tout de suite son interlocuteur, Seigneur. Il a tout de suite compris qu'il est en face d'une puissance, d'une autorité, et il s'y soumet. Que faire d'autre ? Il est à terre, stoppé net dans ses projets. Ses lettres de recommandation des autorités juives ne lui sont d'aucune utilité, d'aucun secours. Il est totalement démuni, tellement aveuglé par cette lumière qu'il en perd la vue et qu'il devient totalement dépendant de ses compagnons de voyage pour terminer son périple. Cette cécité, c'est le signe de son aveuglement spirituel, de son manque de discernement, aveuglé qu'il est par son fanatisme religieux. On peut aussi noter que Jésus a pris l'initiative de leur rencontre, et lui seul. Il a choisi le lieu, l'heure, et il s'est manifesté dans sa toute-puissance. « Je suis moi, Jésus, que tu persécutes. » J'ai lu dans un commentaire que ce qui est traduit par « moi » dans cette version, c'est le même mot que Dieu a employé vis-à-vis de Moïse devant le buisson pour lui dire « je suis ». Et ça n'a pas dû échapper à Paul qui a dû entendre ce mot et faire le rapprochement avec ce qu'il connaissait de l'Ancien Testament. Quel choc ça a dû être pour Saul. Il était en train de persécuter moi, celui qui est. Lui qui tenait les chrétiens pour des menteurs, des imposteurs, des blasphémateurs, il était sûr de son bon droit et de mener le combat pour Dieu. Et le voilà en position d'accusé. Il a perdu toute sa superbe. Il est comme un enfant maintenant réduit à donner la main pour être conduit. Jésus a brisé Saul, il a balayé toutes ses certitudes et il l'a mis dans une situation d'extrême faiblesse et de dépendance. Dans Actes 26, au verset 14, Paul rapporte lui-même les paroles de Jésus plus en détail. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Tu te blesses toi-même en te rebiffant contre l'aiguillon. Ça, c'est la traduction de la version Semeur. Mais dans la traduction Parole vivante, on lit « Il est dangereux de te rebiffer contre ta propre conscience. » Je dis qu'il y a là un enseignement pour chacun de nous. Résister à Dieu n'est pas sans risque. Nous risquons de nous endurcir, de nous enfoncer davantage dans le péché. Pensons à ce que fait un enfant qui refuse d'obéir. Bien souvent, il défie ses parents en bravant les interdits et il persévère dans sa mauvaise conduite. De même, résister à Dieu n'est pas sans danger pour notre vie spirituelle. On peut également remarquer que lorsque Jésus dit qu'il est persécuté par Paul, il s'identifie aux disciples. Nous sommes le corps de Christ sur cette terre, nous est-il dit. Et comme le dira l'apôtre Paul, personne n'a jamais haï son propre corps. Nous pouvons être certains que Jésus prendra soin de ses disciples, même si par la suite, il annoncera à Paul les souffrances qui l'attendent. Jésus ne nous promet pas de nous épargner les souffrances, mais d'être avec nous dans la souffrance. Et la vie de l'apôtre Paul en sera un exemple vivant et parlant. Face à son impuissance, Saul demande « Mais que dois-je donc faire, Seigneur ?» Dans Actes 22, au verset 10, Paul relate aussi la réponse de Jésus. « Relève-toi, entre dans la ville, et là, on te dira ce que tu dois faire. » Jésus ne révèle pas tout de suite à Saul ce qu'il veut lui dire. Il lui demande d'abord de se soumettre, de lui obéir, et il lui laisse le temps de réfléchir. 3 jours dans l'obscurité, sans boire et sans manger, nous est-il dit. Saul a eu le temps de méditer et de prier, nous est-il dit par la suite. Mais la volonté de Jésus n'est pas de laisser Saul dans cet état. Son but ne se limite pas à l'empêcher de nuire à ses disciples. Non, il est bien plus ambitieux. « J'ai choisi cet homme pour me servir. Il fera connaître qui je suis aux nations étrangères et à leur roi, ainsi qu'aux Israélites. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. » Paul donne encore plus de précisions sur les paroles de Jésus dans Actes 26. Au verset 16, il écrit « Je te suis apparu pour que tu sois mon serviteur, pour témoigner aux hommes que tu m'as vu et leur dire ce que je te ferai voir par la suite. Je t'ai choisi du milieu du peuple juif et des païens vers lequel je t'envoie. Tu devras leur ouvrir les yeux et les faire passer des ténèbres à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu. » Pour qu'en croyant en moi, ils reçoivent le pardon de leurs péchés et une part d'héritage avec ceux qui appartiennent à Dieu. C'est un véritable coup de théâtre. Au lieu de combattre Jésus, Saul aura pour mission d'annoncer qui il est vraiment. Alors, je ne sais pas si vous vous êtes posé cette question, mais en voyant la réaction d'Ananias, par exemple, on peut se dire aussi, mais pourquoi Jésus a-t-il choisi Saul? Ananias lui dit, mais enfin, c'est notre ennemi. Il vient ici mener le pouvoir pour arrêter ceux qui te prient, et c'est lui que tu choisis, c'est pas possible. Eh bien, même avec ces interrogations, face à la réponse de Jésus, Ananias obéit et il se rend auprès de Saul. Là aussi, je me dis qu'il y a un enseignement qu'on peut en tirer, c'est que Ananias n'a pas compris pourquoi Jésus avait choisi Saul. il a accepté que Jésus ait choisi Saul. Nous aussi, nous préférons comprendre, mais Dieu nous demande avant tout de lui obéir, de lui faire confiance. Alors, pourquoi Saul ? Ma première réponse serait, Dieu seul le sait. Il est souverain et il choisit qui il veut. Deuxième réponse, en transformant Saul en Paul, Jésus démontre sa toute-puissance. Aucun homme n'aurait pu faire changer Saul d'avis. Seul Dieu avait le pouvoir de le transformer profondément. Et puis, troisième réponse, l'arrière-plan de Saul que nous avons examiné en introduction lui a procuré des qualités qui lui seront fort utiles dans son ministère. Son éducation dans la tradition juive lui permettra d'entrer dans les synagogues et d'appuyer sa prédication sur l'Ancien Testament. Son multiculturalisme lui facilitera les contacts avec les païens. Sa citoyenneté romaine lui donnera le privilège de s'adresser aux puissants et de monter à Rome. Si on met à part le fanatisme religieux de Saul, il a déjà toutes les qualités requises pour accomplir sa mission. Et le zèle que Saul mettait à combattre les chrétiens, Paul le mettra au service de l'Évangile. D'ailleurs, dans l'Épître aux Galates, Paul dira « Mais Dieu m'avait mis à part dès avant ma naissance, et dans sa grâce, il m'a appelé à le connaître. » Quand il écrit aux Galates, Paul est convaincu que Dieu avait tout prévu depuis le début. Mais voilà, Saul qui croyait avoir l'initiative en allant à Damas, eh bien, il n'a plus qu'une solution, c'est attendre la suite des événements. Mais on peut remarquer qu'il n'attend pas sans rien faire. Il prie. Et c'est une leçon à retenir. Au lieu de désespérer, d'être consterné, abattu, Paul prie. C'est un recours que nous avons toujours aussi lorsque nous sommes face à l'incompréhensible, à l'inattendu, lorsque nous nous sentons complètement déplacés et incapables, nous avons toujours cette ressource de la prière. Ananias obéit donc et se rend auprès de Saul. Saul, mon frère. Vous aviez remarqué qu'Ananias avait appelé Saul son frère, alors que 3 jours plus tôt, ils étaient ennemis. C'est une belle démonstration de foi et d'obéissance de la part d'Ananias. Et je me dis, est-ce que nous serions capables d'en faire autant et d'accepter que quelqu'un puisse changer radicalement ? Il ne s'agit pas ici d'être naïf ou crédule, mais de savoir reconnaître une conversion, un repentir lorsqu'ils sont vrais et sincères, et de ne pas toujours ramener l'autre à sa condition ancienne. Il a fallu une bonne dose de foi à Ananias pour faire taire ses réticences. En disciple fidèle, Ananias transmet à Saul les paroles de Jésus. « Jésus m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Dans Acte 22, Paul, encore une fois, détaille davantage les paroles que Ananias lui a rapportées. « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tardes-tu ? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » Les instructions de Jésus sont précises et Paul s'y soumet de suite. La transformation de Saul est miraculeuse et elle n'a pris que 3 jours. C'est encore là un signe de la toute-puissance de Jésus. Et maintenant, que tardes-tu ? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés. Ces paroles nous invitent, nous aussi, à ne pas tarder à obéir à Dieu. Nous faisons souvent comme si nous avions le temps devant nous, que rien ne presse. L'épidémie de Covid-19 nous montre que nous ne sommes pas maîtres du temps ni des circonstances. Si Dieu parle à votre cœur, ne tardez pas à lui répondre. Suivez l'exemple de Paul. Le verset 20, le dernier que nous ayons lu, nous dit que Paul ne tarde pas pour commencer son nouveau ministère. il se met à l'œuvre sans attendre. Il est déjà formé, il connaît les Écritures, et sa vision de Jésus lui a ouvert les yeux sur ce qu'il ne comprenait pas jusqu'à ce jour. Il est prêt pour annoncer la bonne nouvelle. Je vous propose à présent, dans un deuxième volet, de voir comment Paul parle de sa conversion et comment les circonstances de sa conversion ont pu avoir une influence sur son ministère. De sa rencontre personnelle avec Jésus, Paul tire sa légitimité, lui qui ne faisait pas partie des douze. La plupart de ses lettres y font allusion. Je citerai simplement le premier verset de l'Épître aux Galates. Cette lettre vous est adressée par Paul, apôtre, non par une autorité humaine, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père, qui l'a ressuscité d'entre les morts. L'appel de Paul par Jésus est ce qui fonde son autorité, sa détermination, ce qui lui donne son assurance. Et on pourrait dire que c'est un peu ce qui est le carburant de Paul, ce qui le met en marche, ce qui le fait avancer. Paul dira plus loin, « Aussi, dès qu'il a plu à Dieu de me révéler son Fils pour que je l'annonce aux non-juifs, je n'ai consulté personne. Je ne suis même pas rendu à Jérusalem pour rencontrer ceux qui étaient déjà apôtres avant moi. Mais je suis parti pour l'Arabie. De là, je suis retourné à Damas. Ce n'est que 3 ans plus tard que je suis allé à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre, chez qui je suis resté 15 jours. » Paul souligne ici que son autorité lui vient directement de Dieu et non pas des apôtres. Sans cette révélation spéciale, son autorité aurait été moindre et il aurait eu beaucoup plus de difficultés à faire reconnaître à Pierre qu'il était répréhensible, pour reprendre le mot utilisé par Paul, dans son attitude vis-à-vis des convertis d'origine païenne. Et je vous avoue que les premières fois que j'ai lu ce texte, je me disais, Paul, quand même, il n'est pas très modeste. Hein. Il est capable de faire ça tout seul, etc. Quand on lit, par exemple, dans Corinthiens 15, verset 9, on voit que Paul n'oublie pas quand même qui il était. En tout dernier lieu, il, donc Jésus, m'est apparu à moi comme à celui qui suis venu après coup. Oui, je suis le moindre des apôtres. Je ne mérite pas de porter le titre d'apôtre puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Dans la personnalité de Paul, il y a en même temps la force que lui a donnée cette révélation spéciale de Jésus et l'humilité, la mémoire de ce qu'il était, de ce qu'il a fait. Paul est aussi reconnaissant. Ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. Et cette grâce qu'il m'a témoignée n'a pas été inefficace. Loin de là, j'ai peiné à la tâche plus que tous les autres apôtres. Et là, on se dit, ça y est, il est reparti, Paul. Encore un manque de modestie. Mais il termine en disant, non, pas moi, certes, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. On trouve ces versets dans 1 Corinthiens 15. À Timothée, il dira, je suis reconnaissant envers celui qui m'a rendu capable de remplir cette tâche, Jésus-Christ, notre Seigneur. En effet, il m'a accordé sa confiance en me choisissant pour ce service, moi qui autrefois l'ai offensé, persécuté et insulté. Mais il a eu pitié de moi car j'agissais par ignorance puisque je n'avais pas la foi. Dans la surabondance de sa grâce, notre Seigneur a fait naître en moi la foi et l'amour que l'on trouve dans l'union avec Jésus-Christ. La parole que voici est certaine, elle mérite d'être reçue sans réserve. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver des pécheurs. Je suis pour ma part l'exemple type d'entre eux. Mais Dieu a eu pitié de moi pour cette raison. Jésus-Christ a voulu, en moi, l'exemple type des pécheurs, montrer toute l'étendue de sa patience pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour accéder à la vie éternelle. Si Jésus a su transformer le cœur de Saul, il peut transformer le cœur de n'importe qui. C'est un peu le message que nous dit Paul en disant « Mais je suis l'exemple type du pécheur et Jésus m'a sauvé. » Alors je vous propose maintenant dans un troisième volet de regarder quelles sont les transformations qu'on peut observer chez Saul pour qu'il devienne Paul. La plus évidente, c'est que Saul, qui persécutait les disciples de Jésus, est devenu Paul, qui a répandu la bonne nouvelle dans tout le bassin méditerranéen. Et sans s'arrêter pour détailler cette carte, mais on voit à travers tous les voyages qu'a entrepris Paul, qu'il a sillonné pendant 15-20 ans, à travers toute la Méditerranée, et que si nous sommes aujourd'hui 31% de chrétiens dans le monde, eh bien c'est probablement l'un des fruits du ministère de Paul, pas de lui seulement, mais reconnaissons que c'est quand même Paul qui a initié l'évangélisation du monde entier. Saul était un homme dur, insensible, violent. Paul se décrit lui-même ainsi dans sa première épître à Timothée, « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. » Paul, comme cela lui avait été annoncé, connaîtra la souffrance. Dans 2 Corinthiens, par exemple, au chapitre 1, versets 8 et 9, il dit « Nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie, et nous regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. » Cela m'interpelle, parce que lors de notre conversion, nous nous réjouissons d'être sauvés, d'être pardonnés, mais Dieu ne nous a jamais promis de nous épargner les épreuves ni la souffrance. Ainsi, lorsque Jésus appelle Paul à son service, il lui annonce en même temps qu'il aura à souffrir. Et cela nous rappelle d'autres paroles de Jésus. Dans l'évangile de Matthieu, quand il dit « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Mais il ajoute aussi « Ne craignez donc pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire mourir l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr corps et âme dans l'enfer. » Paul est pour nous un exemple à suivre. Il dira au chapitre 20, verset 24 du livre des Actes, « Ma vie m'importe peu, je ne lui accorde aucun prix. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et d'accomplir pleinement le service que le Seigneur m'a confié, c'est-à-dire de proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Je ne sais pas ce que vous en pensez, on peut être qu'admiratif d'une telle consécration, mais je me dis que c'est aussi bien difficile de se comparer à Paul. Autant dans l'évocation de la vie de Pierre, on trouve des dimensions très humaines qui nous facilitent une identification avec Pierre. S'identifier à Paul, c'est plus difficile. On a vraiment l'impression qu'il place la barre trop haut, qu'il est un modèle impossible à suivre. Dieu ne nous demande pas d'être tous des Paul, mais on peut s'inspirer de la vie de Paul pour essayer de progresser. Saul était un homme violent et dur. Mais Paul est celui qui écrira l'un des plus beaux textes de toutes les Écritures, en tout cas c'est mon avis, c'est dans 1 Corinthiens 13. Et si vous permettez, je ferai une petite compilation de quelques paroles que je trouve absolument merveilleuses. « Quand bien même je parlerai toutes les langues des hommes et des anges, quand bien même j'aurai le don de prophétie, la science, la connaissance de tous les mystères, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Et dans la première épître à Timothée, il dira au chapitre 1, verset 14, « Dans la surabondance de sa grâce, notre Seigneur a fait naître en moi la foi et l'amour que l'on trouve dans l'union avec Jésus-Christ. » Le moins qu'on puisse dire, c'est que lorsqu'on pense à Saul, la première chose à laquelle on pense, ce n'est pas l'amour. C'est cet homme dur, zélé, fanatique. Alors que Paul dit « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Et cela nous parle aujourd'hui encore. Parce que rappelons-nous quel est le premier de tous les commandements. C'est d'aimer Dieu et son prochain. Et notre capacité à aimer, bien qu'encore très imparfaite, nous vient de Dieu. Comme Paul le souligne, elle est un bon indicateur de notre état spirituel. Qui n'aime pas Dieu n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Ou dans la première épître aux Corinthiens, recherchez avant tout l'amour, la source de l'amour se trouve en Dieu. Saul, lui, était animé d'un esprit de jugement. Paul écrira à Timothée : un serviteur du Seigneur doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. On trouve cette parole dans 2 Timothée 2, verset 25. Paul savait réprimander, dénoncer les mauvaises conduites, parfois rudement. Quelques exemples. Aux Galates, il dit « Je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour vous tourner vers un autre message. » Ou aux Corinthiens, « Ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. » Vous imaginez qu'un prédicateur venu de l'extérieur prenne un jour la parole rue Sonnera et nous dise ben, « Je ne vous félicite pas, hein, vous ne vous réunissez pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. » Des paroles qu'il faut savoir entendre. Hein. Et Paul, à certains moments, continue à porter des jugements. Quand il est question d'un cas d'inceste, il dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Saul condamné à mort pour éradiquer ce qu'il considérait comme une hérésie. Paul juge, lui, parfois sévèrement, mais la finalité, ce n'est pas la mort du pécheur, mais c'est qu'il se repente et que son âme soit sauvée. Et ça change quand même beaucoup de choses. Saul, lui, était intransigeant. Paul, lui, fera preuve de conviction, de détermination. Il saura à certains moments s'opposer. Par exemple, il nous dit « Lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. » Mais ce qui était un zèle excessif et fanatique chez Saul est devenu chez Paul de la détermination, de la conviction, de la fermeté sur les points qui lui paraissent fondamentaux et sur lesquels il ne veut pas céder. Par contre, il dira dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 22, « Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Saul voulait réprimer, Paul, lui, voulait convaincre, sauver, gagner à la cause de Christ. Il voulait plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes, donc il y a des choses sur lesquelles il ne transigeait pas, mais il se faisait tout à tous pour gagner les âmes. Saul, bien que sincère, ne s'était pas engagé pour la bonne cause. Paul lui dira à la fin de sa vie « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Saul, lui, ne se remettait pas en cause, alors que Paul ne considérera jamais qu'il est arrivé. Il écrira « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Non, frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. » Si Paul pense cela de lui, à plus forte raison de vous nous considérer que nous non plus, nous ne sommes pas arrivés et que nous devons poursuivre notre course pour reprendre son image. Alors j'en arrive à la conclusion de ce message. Que retiendrons-nous? Eh bien, il me semble qu'à travers l'épisode de la conversion de Paul, il y a quand même une première chose à retenir, c'est que Dieu a voulu que la bonne nouvelle soit annoncée à tous. Et il a choisi pour cela un homme qualifié. Que Dieu lui a donné ce qui lui manquait pour accomplir sa tâche, en le transformant radicalement. Ce que Dieu a fait en Paul, il peut le faire en chacun de nous. Paul se présentait lui-même comme l'archétype du pécheur, le pécheur par excellence. Mais il dira dans l'Épître aux Romains que là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé. Paul est aussi un exemple que Dieu nous donne à suivre. Comme je l'ai dit, Paul a placé la barre très haut. Mais Dieu ne nous demande pas d'être des Pauls, mais simplement de nous inspirer de sa conduite. Paul n'a pas tardé à répondre à l'appel de Dieu. Il a su concilier la fermeté, mais aussi la souplesse. Il savait réprimander, mais il savait aussi encourager. Son but était de convaincre, de gagner à la cause de Christ, et on peut remarquer qu'il a totalement renoncé à la violence. Paul était humble et reconnaissant, se souvenant qu'il avait persécuté les chrétiens et que c'est par pure grâce que Dieu l'a appelé à son service. Enfin, Paul a été persévérant, ne considérant jamais qu'il avait atteint le but, mais continuant à courir pour s'en saisir. Que notre Seigneur bénisse sa parole.